temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Cette première émission de l'année va être l'occasion de revenir sur une affaire passée un peu inaperçue pour les non-spécialistes quelques jours avant Noël, mais qui a conduit la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris à juger le hacker français le plus recherché par la CIA. Je vous avais annoncé cette émission dès le mois de novembre dans une autre déjà consacrée à la cybercriminalité. On l'attendait, ce jugement. Pour en parler et parler plus largement des atteintes au système de traitement automatisé de données au sein de la cybercriminalité, deux invités que je remercie vraiment d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Guillaume Daïef, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris, chambre spécialisée sur la cybercriminalité, particulièrement les atteintes au traitement et système automatisé de données. Et avec vous, Mathieu Audibert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes officier de gendarmerie au sein du ComCybermi, le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Vous êtes également docteur en droit. Vous venez de soutenir avec brio votre thèse intitulée « Le recueil de la preuve numérique, enjeux et perspectives en procédure pénale ». Deux regards spécialisés en cybercriminalité pour ce premier échange de l'année. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des Temps électriques.
Tu as entendu parler de l'opération Espadon ? 9 milliards et demi. On passe par les lignes téléphoniques, on fait sauter le pare-feu, on s'assoit et on attend le fric.
Tout ce qu'il lui faut, c'est le mot de passe.
D'après mes infos, les meilleurs crackers du monde le font en 60 minutes. Malheureusement, je dois trouver quelqu'un qui le fait en 60 secondes.
Tu rigoles.
Top. 45 secondes.
Casse le code.
Tu crois que je suis un voleur de banque? En fait, je suis pire que ça. Bien pire.
Rafle la mise.
20.
Vous allez tous les faire massacrer.
15.
Il me faut plus de temps, plus de temps.
Le nombre de victimes ne dépend que de vous. 10.
Lâchez l'otage.
Non, lâchez-la.
3. 2, 1...
Non, arrête, attends!
T'es mort, c'est trop tard.
Poussé d'adrénaline dans cet extrait du film L'opération Espadon, image d'Épinal, du hacker au cinéma. Si le personnage du hacker fascine souvent, en effet, de par la nature un peu occulte de ses activités, il est trop simpliste de le réduire pour autant à cette figure du grand écran. En sécurité informatique, le terme hacker désigne une personne qui recherche les moyens de contourner les protections logicielles et matérielles. Les motivations derrière ces agissements peuvent être diverses, on y reviendra dans cette émission. Certains hackers revendiquant agir par curiosité, conscience politique, d'autres encore seront animés par vengeance, malveillance ou encore tout simplement appâtés par le gain. C'est qu'en effet, la donnée informatique est devenue une nouvelle monnaie d'échange pour les cybercriminels qui les revendent sur les marchés noirs du cyberespace, s'en servant souvent pour obtenir le paiement d'une rançon ou encore pour nuire à l'image d'une entreprise. La traduction juridique de ces activités est en réalité plurielle. Plusieurs qualifications trouvent en effet leur assise dans la loi Godefrin du 5 janvier 1988, réprimant les actes de criminalité informatique et de piratage d'un système de traitement automatisé de données. La spécificité de la cybercriminalité et la technicité des modes opératoires des cyberdélinquants ont conduit les services d'enquête et l'institution judiciaire à se spécialiser. Ainsi aujourd'hui, le traitement judiciaire de ces infractions informatiques relève en particulier d'une chambre spécifique du tribunal judiciaire de Paris, la 13e chambre correctionnelle. On se penche donc, dans un instant avec nos invités, sur l'un de ces jugements rendus le 16 décembre dernier.
C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants, à l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans scène, l'Arsène. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches, sans arrivage, l'Arsène. C'est le roi des casseurs. C'est le roi des tombes. Il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, l'Arsène. Avec son parapluie, sa moustache mise en blé, l'Arsène. Avec son flair infaillible, il est irrésistible, l'Arsène. Irrésistible. Et parfois visible, le bel Arsène. C'est un berceur de coffre-fort, c'est un casseur de joli cœur, le redresseur de tous les torts, l'Arsène. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant, l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'emmêle, tout se démêle.
L'Arsène, chanté ici par Jacques Dutronc. L'image du gentleman cambrioleur, particulièrement connu pour son talent à user de déguisements, à se grimer, à prendre des identités multiples pour commettre ses délits, résoudre des énigmes criminelles, est presque tout indiqué pour amorcer ses échanges et filer la métaphore vers la multiplicité des profils du hacker. Pour débuter nos échanges, on va partir de cette émission, récemment rendue donc par la 13e Chambre. On la gardera comme toile de fond durant l'émission. Le but étant d'essayer de mieux comprendre les infractions qui se cachent derrière le terme « hacking », qui est somme toute très réducteur, et essayer de mieux cerner aussi les profils de criminels et de victimes en cause. Guillaume Daïef, afin peut-être de permettre à nos auditeurs de comprendre les points de droit dont on va parler ensuite, pour débuter, pourriez-vous revenir sur les faits et le contexte de cette décision ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci pour cette introduction complète. Juste à titre préliminaire, d'abord, juste dire que c'est pas très fréquent qu'un président correctionnel viennent parler des jugements qui ont été rendus sous sa présidence.
Merci.
Je pense que c'est dommage, mais je le fais uniquement parce que certaines conditions sont remplies. Je voudrais poser ce préliminaire d'abord. D'abord, c'est un jugement qui a été rendu en audience publique. D'autre part, c'est un jugement qui a été couvert par les médias. Et puis enfin, surtout, c'est un jugement qui est définitif. C'est-à-dire qu'il a fait l'objet d'aucun appel. Et donc, à ce titre, je pense que il est utile et opportun de pouvoir en parler. Et je rappelle d'ailleurs que l'article R166 du Code de procédure pénale permet à toute personne, c'est-à-dire même des personnes qui n'étaient pas parties au procès, c'est-à-dire 99,99% des gens, de demander une copie du jugement au parquet de Paris. Voilà, alors sur les faits dont nous étions saisis, c'était en fait... au départ, une enquête donc du parquet de Paris, de la section J3 du parquet de Paris, qui a une compétence nationale en matière de cybercriminalité, une enquête qui portait sur les activités criminelles, c'est-à-dire infractionnelles, de groupes de rançonneurs qui ont chacun leur nom et qui étaient en l'espèce le groupe, notamment le groupe Everest et le groupe PISA. Et au décours de cette enquête, qui avait démarré parce que des serveurs d'entreprises situées sur le territoire national avaient été hackés, on verra plus tard de quelle manière, les enquêteurs sont tombés sur un individu qui est une nationalité française, qui était en France et qui paraissait lié à ces rançonneurs, en tout cas au moins à un groupe qui s'appelle le groupe Everest, enfin qui se dénomme le groupe Everest. Et donc, évidemment, l'enquête s'est attachée à travailler sur lui ainsi que sur les membres et essayer d'identifier les membres du groupe Everest. Alors là, juste un petit mot. Moi, je suis juge aujourd'hui. Hein. Avant, j'étais juge d'instruction, j'ai été procureur aussi. Donc, je faisais, c'est-à-dire ces deux autorités, juge d'instruction et procureur, font des enquêtes. Et c'est à elles d'identifier un tel ou un tel et puis de choisir les directions d'enquête. En revanche, et ensuite, ils apportent sur le bureau d'un juge un produit. Voilà. Alors, maintenant que je suis juge, je ne fais plus d'enquête et je juge ce qu'on m'apporte. On, c'est donc le procureur ou c'est le juge d'instruction. Et en l'espèce, c'était une enquête qui nous était apportée par un juge d'instruction du tribunal de Paris. Voilà. Et il se trouve qu'au terme de cette enquête, ils n'ont pas identifié les membres du groupe Everest, mais en revanche, ils ont bien travaillé sur donc cette personne qui a été au final condamnée. Voilà. Et on verra de quel type de complicité il pouvait s'agir.
Alors, effectivement, on va décortiquer ensemble la décision ensuite. Si on essaye plus largement de réfléchir aux motivations qui peuvent pousser ces criminels à agir pour continuer à dresser ce cadre, vous diriez, dans vos observations en tant que juge, comme vous dites, que c'est quoi en couleur ?
Mais vous les avez très bien cités tout à l'heure et déclinés. Il y a évidemment d'abord le mobile crapuleux. Quand on dit crapuleux, ça c'est un terme, je dirais, un peu de doctrine universitaire, c'est-à-dire le mobile, l'argent. Donc l'argent, c'est gagner de l'argent. Et donc derrière, peut y avoir des ressorts moraux tels que la cupidité, par exemple. C'est ce qu'on voit typiquement là dans le dossier. On voyait bien dans le groupe Everest, ceux qui n'ont pas été identifiés, c'est vraiment l'argent qu'ils cherchent. Et quelque part, ça leur donne un comportement assez rationnel. Mais il n'y a pas que ça. Il pouvait y avoir effectivement des mobiles politiques, je dirais de type peut-être un peu parfois contestataire, anarchiste, tout ça. Mais ça va conduire, par exemple, les auteurs à abîmer des sites, mais à inscrire des messages sur les sites internet. Et ce sont des mobiles de politique. Enfin, il y a ce que vous avez appelé la curiosité du hacker. Il y a le goût du challenge. Il y a le côté technique, le côté j'arrive à pénétrer là où c'est interdit, même si après je n'en fais rien. Et ça, ce goût-là, il s'intègre dans une sociologie assez, sinon hiérarchisée, du moins une sociologie un écosystème, un système de gens qui se jugent les uns les autres et qui s'apprécient en fonction de leurs capacités techniques. Et vous avez certains forums où vous pouvez avoir des grades, et selon que vous êtes bon ou moins bon, vous pouvez monter en grade. Et ça peut être un moteur pour certaines personnes qui veulent se faire un nom. Mais ça, c'est le profil un peu ingénieur, technicien, geek, et qui ne cherche pas nécessairement de l'argent.
Ces profils, mais alors, juste pour terminer sur les faits, peut-être pour clarifier pour les auditeurs, le positionnement entre Everest et les noms que vous citez et le rôle du hacker en l'espèce, qu'était-il reproché au hacker très concrètement on le soupçonnait d'avoir fait quoi
et Ou français l'a... alors
Oui, français. Ouais.
Disons qu'on le soupçonnait d'être complice du groupe Everest. Donc Everest, qu'est-ce qu'il faisait ? Il pénétrait dans les systèmes informatiques. Il faisait ensuite sans autorisation. Et là, il faisait deux choses. La première chose, il chiffrait les données des systèmes dans lesquels il avait pénétré. Chiffrer, ça veut dire que les données étaient indisponibles par leur propriétaire, c'est-à-dire par l'entreprise. Et deuxième chose, et donc il demandait de l'argent pour donner une clé de déchiffrement, c'est-à-dire pour désentraver le fonctionnement du stade, et ça, c'était qualifié d'extorsion. Donc il y avait deux choses, il y avait au plan des atteintes techniques au système de traitement automatisé de données, puis on dira maintenant le stade, il y a l'atteinte, il y a donc l'entrave, et puis d'autre part, le fait de demander de l'argent, évidemment ça s'appelle une extorsion, ça c'était acquis au débat, il n'y a pas de sujet là-dessus. Première extorsion, et puis la deuxième extorsion, c'est qu'en plus il volait les données, donc techniquement on disait extraction frauduleuse, donc il vole les données, il les met, il les sécurise quelque part dans le monde numérique, et là pour les restituer à l'entreprise, eh bien il leur demande aussi de l'argent. Enfin, en réalité, ils les mettent en vente mais évidemment le propriétaire de données peut aussi les racheter. Donc ça, c'est une deuxième extorsion. Le français, lui, il se présentait au départ, enfin officiellement pendant l'enquête, c'est-à-dire avant même que, comme un représentant, où il était présenté par le groupe Everest sur son site sur le Darknet comme leur représentant en Europe en vue de négocier. Mmh. Voilà. Et ça, il l'assumait pleinement. Alors, on verra la raison pour laquelle il l'assumait. Si vous représentez des gens qui font de l'extorsion, vous êtes complice d'extorsion.
Alors Mathieu Audibert, on va poursuivre les échanges avec vous. Donc je rappelle, vous êtes officier de gendarmerie. Les reventes de données ont lieu sur le dark web. C'est une partie du cyberespace qui véhicule là aussi un certain imaginaire, beaucoup de flou aussi. Comment ça se passe vraiment sur ce lieu, ce darknet dont on parle?
Alors ça se passe de manière très diverse et très variée, mais tout d'abord je voulais vous remercier pour votre invitation, Madame Sontag, pour participer à ce podcast qui j'espère ravira tous vos auditeurs. Ce qui est intéressant par rapport à tout ce qui vient d'être dit depuis le début de notre enregistrement, c'est effectivement qu'on parle beaucoup de cybercriminalité, de cyberespace, et vos auditeurs, auditrices doivent bien comprendre que maintenant, en 2025, ce qu'on appelait autrefois le risque numérique ou le risque d'être victime d'un acte ou d'un fait qui relève de la cybercriminalité, c'est plus un risque qui est conjoncturel, c'est ce qu'on appelle maintenant un risque systémique. En gros, la question n'est pas si je vais être piraté, la question est quand je vais être piraté. Étant précisé effectivement que ce risque numérique concerne les personnes privées, les personnes publiques, les organisations de l'État, les services de l'État, les collectivités territoriales, et concerne aussi, comme c'est le cas dans le jugement qui a été évoqué, les entreprises privées, ou en l'occurrence, le cabinet d'avocats qui avait été visé par une attaque sur son système informatique. Le dark web, il faut aussi démystifier un peu cette notion qui revient régulièrement dans la presse ou dans les médias, qui est présentée souvent avec un homme derrière un ordinateur dans une pièce sombre, avec un sweat à capuche sur la tête. Cette image d'Épinal est totalement surannée, enfin, n'existe plus. Pourquoi ? Parce que maintenant, et ça, comme ça a déjà été évoqué, nous faisons face depuis de nombreuses années à des groupes criminels organisés. C'est la définition, une définition qui nous vient d'Europol, qui sont en réalité, qui ont investi cette partie-là du cyberespace pour se livrer à un certain nombre d'activités délictuelles, voire criminelles, dans le but, comme cela a été évoqué, de générer un maximum de gains financiers. Le dark web, en soi, ce n'est pas quelque chose qui est illégal par nature. N'importe qui a le droit de télécharger un logiciel qui permet d'accéder à cette partie d'Internet qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche et qui est accessible uniquement au moyen d'un tel outil. Ce sont les activités que on peut réaliser sur cette partie, entre guillemets, sombre d'Internet qui sont illégales. Comme c'est une partie un peu plus sombre, sombre dans le sens où elle est, entre guillemets, moins visible. Comme je l'ai dit, il faut un logiciel. Le plus connu, l'un des réseaux du dark web, ce qu'on appelle un dark net, qui est le plus connu, c'est le réseau Tor, qui est un réseau qui est légal par nature. On peut rappeler qu'il a été créé par les services de l'État américain aux États-Unis, notamment pour contourner la censure dans certains pays du monde. Sur ce réseau, vous pouvez effectivement lire plein de choses, vous pouvez participer à des échanges qui, par nature, ne sont pas illégaux, il y a des choses tout à fait légales dessus. Mais, comme il faut un logiciel particulier, et sans rentrer dans les détails pour ne pas perdre d'un point de vue technique tous nos auditeurs, nos auditrices, c'est un réseau informatique, ce Darknet, qui emprunte beaucoup à la sécurité des systèmes d'information et particulièrement au chiffrement des communications électroniques. En fait, les connexions transitent entre différents nœuds. C'est pour ça que l'image de Tor, c'est l'image d'un oignon, puisqu'il y a différentes couches, et ça complique le travail d'identification des suspects au cours des enquêtes qui sont réalisées par les enquêteurs sous la direction des magistrats. Sur le dark web, vous avez des choses légales, mais vous avez aussi des choses illégales. Par rapport aux faits qui sont évoqués ici en l'espèce, nous avons sur le dark web des forums, des sites internet qui ont pour fonction de mettre en relation des individus qui ont différentes technicités et qui sont capables de réaliser différentes atteintes à un système de traitement automatisé de données pour reprendre les termes des articles 323-1 et suivant du code pénal. Vous avez des gens qui sont capables de développer des outils, des logiciels pour réaliser du piratage informatique, c'est-à-dire pour accéder, se maintenir sans autorisation dans tout ou partie d'un système d'information. Vous avez des gens aussi qui sont capables de créer des outils qui vont altérer le bon fonctionnement du système, comme c'est le cas en l'espèce, puisque les victimes ont été ciblées par l'utilisation d'un logiciel qu'on appelle un ransomware en anglais, un rançon logiciel en français. C'est un logiciel qui vient chiffrer tout ou partie des données contenues dans un système de traitement automatisé de données, dans le but après de demander une rançon. Généralement, rançon qui doit être payée par le biais d'actifs numériques. Évidemment, on ne va pas utiliser une carte bleue ou un virement pour payer le cas échéant cette rançon, mais on reviendra sur la rançon et le fait qu'il ne faut surtout pas payer, pas payer cette rançon.
Ça, effectivement, on va y revenir. Peut-être pour rebondir, je vous redonnerai la parole dans un instant, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire dans la façon de s'organiser sur cet espace, Guillaume Daïef, on peut peut-être tout de suite aborder la question des modes opératoires. Comment on rentre en contact avec sa victime via cet espace un peu opaque qui est évoqué? Comment ça s'opère concrètement, le processus d'extorsion que vous évoquiez il y a un instant?
Eh bien, ce qu'on voit dans ce dossier, c'est qu'il y avait deux manières, mais c'est le bon sens, hein, qui est tout à fait conforme au bon sens. Le matin, la victime, l'entreprise arrive dans ses bureaux et là, s'aperçoit que plus rien ne fonctionne. Donc là, panique. Hein, bon. Et dans la journée, alors elle reçoit, les rançonneurs prennent contact avec l'entreprise de deux manières, soit par écrit, soit par oral. Voilà. Donc écrit, c'était ce qu'on voyait, c'est qu'ils laissaient ce qu'ils appellent des petites notes écrites. Dans le système informatique, bien en vue, évidemment, pour que ça soit lu, petite note lapidaire disant bonjour. Alors, toujours une espèce de langage assez, plutôt courtois, mais ignoble en réalité, hein, parce que d'autant plus ignoble que c'est courtois et presque poli. Voilà, mais bonjour, on a vos données sont cryptées, c'est tout est bloqué. Voilà, si vous voulez trouver une solution, merci de nous contacter. Alors, et là, il y a un lien qui est donné, ou alors là, c'était plutôt une adresse mail. Mais évidemment, ce n'était pas une adresse mail chez Google, c'était une adresse mail chez des prestataires qui existent et qui permettent de s'échanger des mails, un, de manière cryptée, et puis deux, je pense, avec en empêchant la traçabilité. Notamment, là, c'était ceux qui sont en Suisse, là, et je retrouverai le nom. De cette société, c'était Proton. Oui, Proton, voilà, Proton. Bon, voilà, alors ça c'est la première manière, puis la deuxième manière, c'est le coup de fil, voilà, et quelqu'un qui appelle, parce qu'évidemment, comme ils ont eu accès à l'entreprise, ils savent quels sont les téléphones des uns et des autres, notamment le directeur de la sécurité informatique, puis ils appellent, puis ils disent bonjour. Et alors là, en l'espèce, c'était justement, en général, d'après les témoignages des victimes, des entreprises, c'était des gens à fort accent des pays de l'Est, mais pas que. Il y avait aussi quelqu'un qui semblait, qui parlait alors toujours en anglais, hein, voilà, donc soit en anglais en roulant les R, soit en anglais, paraît-il, il y avait une qui avait l'air, semblait être asiatique. Voilà. Donc là, c'est les petites mains, j'imagine. Enfin, ça, l'enquête ne nous a pas dit qui les appelait, puisque en tout cas, ce n'était pas notre français, c'était les gens du groupe, mais voilà.
Bon, alors si on s'immerge maintenant dans la question de l'enquête. On débute par la question de l'enquête judiciaire. Je me tourne vers vous, Mathieu Dibert. Comment on enquête sur ce type d'infraction?
Alors, on enquête. Alors, tout ce que je vais dire est public, hein, puisque c'est soit dans le code de procédure pénale, soit dans les différents articles de la doctrine ou à la rigueur de revues spécialisées.
On n'extorque pas d'informations.
Donc, il n'y a aucune information qui est protégée par le secret de l'enquête et de l'instruction, naturellement, ou par le secret professionnel. On enquête de différentes manières. En fait, tout dépend qui est ciblé par les investigations. Si on cherche, par exemple, à identifier les individus qui participent à la tentative d'extorsion, il va par exemple y avoir un contact, on y reviendra. Si on travaille sur les gens qui vendent les données qui ont été dérobées aux victimes sur le dark web, l'approche sera ici différente, puisqu'on va chercher à tracer notamment les fonds qui circulent sur les différents portefeuilles d'actifs numériques. Pour, dans un premier temps, sur la tentative d'extorsion, pour enquêter, déjà, il faut être prévenu. Ça peut paraître bête, mais quand on est victime d'une infraction dans le monde physique, par opposition au monde numérique, les victimes ont souvent le réflexe, à juste titre, de composer le 17 En matière numérique, il ne faut pas hésiter non plus à composer le 17 et à appeler pour demander de l'aide, à appeler les services de l'État, sachant qu'en matière numérique, il y a une communication récemment du ministère de l'Intérieur sur la mise en œuvre d'un 17 cyber qui vise justement à aider à apporter une assistance aux victimes d'infractions, puisque la sidération face à la cyberattaque est parfois terrible, qu'on soit une entreprise, une organisation, ou qu'on soit une personne privée. Donc pour enquêter, déjà, il faut être prévenu. Le plus tôt possible, notamment pour pouvoir bénéficier des conditions et des pouvoirs qui sont permis par l'enquête de flagrance. La particularité des investigations dans le cyberespace, contrairement aux investigations qu'on pourrait qualifier de plus traditionnelles, ou en tout cas qui ont lieu dans le monde réel, c'est qu'elles nécessitent néanmoins une certaine technicité, puisque les preuves numériques, à l'inverse des preuves physiques, sont beaucoup plus fragiles. L'actualité judiciaire nous montre à quel point il est difficile de faire disparaître une trace de sang ou un ADN dans un véhicule. Ça a été notamment souligné dans différents procès d'assises qui ont eu lieu ces dernières années. Néanmoins, il est plus facile de faire disparaître une trace numérique qui est sur un support, puisque si on détruit le support, la trace numérique va disparaître. Donc il faut des enquêteurs spécialement formés et dans certaines situations qui sont spécialement habilités. Et ça a été le cas ici dans l'enquête, puisque ça a été diffusé dans les différents articles de presse. Vous avez, en l'occurrence, des policiers, puisque c'est un service de la police judiciaire, de la Direction nationale de la police judiciaire qui a été saisi par le parquet de Paris, un enquêteur spécialisé qui a procédé à ce qu'on appelle une enquête sous pseudonyme, qui est une technique d'enquête de droit commun maintenant depuis 2019 et qui permet sous pseudonyme de réaliser un certain nombre d'actes pour certains qui sont soumis à l'autorisation préalable du magistrat. La particularité de cette enquête sous pseudonyme, c'est comme son nom l'indique, c'est que le policier ou le gendarme spécialement formé et habilité par le procureur général peut employer un pseudonyme et se faire passer pour une autre personne auprès d'un suspect. C'est une enquête qui date de 2017, qui à la base a été créée pour lutter contre la pédocriminalité, et qui maintenant a été élargi à toutes les infractions qui ont été commises par la voie des communications électroniques. Ce qui est très intéressant avec ce type d'enquête, c'est que finalement, vous pouvez vous faire passer, par exemple, pour un client, pour un vendeur de contenu ou de produits illicites, avec la nuance qui est en fait un ciment de la procédure pénale, puisque nous sommes des autorités publiques, donc si la preuve est libre en procédure pénale pour les autorités publiques, la preuve doit être loyale. Comme on connaît classiquement cette distinction, s'il est possible de provoquer la preuve, en tout état de cause, il est formellement impossible de provoquer la commission d'une infraction. Et d'ailleurs, j'ai vu dans ce jugement que ça avait fait l'objet de débats par la défense, qui avait essayé de soutenir que le rôle de ce policier qui a enquêté sous pseudonyme donc aurait été finalement une provocation à l'infraction, donc ce qui aurait entraîné la nullité de cette partie-là de la procédure. Le tribunal ne l'a pas retenu à juste titre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'a pas déterminé le passage à l'acte de l'individu qui, in fine, a été condamné. Il a juste, en réalité, permis par ses actes la révélation d'un certain nombre de comportements illégaux. Et c'est une technique d'enquête qui a fait largement ses preuves et qui, dans la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, ne fait pas de difficultés dès lors, encore une fois, qu'il n'y a pas de provocation à l'infraction. Par rapport à cette enquête, enfin, quand on s'intéresse un peu sur les gens qui vont revendre les données volées sur le dark web, comme je le disais tout à l'heure, on n'utilise pas forcément sa carte bleue, son compte bancaire pour faire des virements SEPA, pour acheter des produits ou des services, des biens immatériels illicites. Non, on va utiliser des actifs numériques, les principaux sont le Bitcoin, le Monero ou l'Ether, etc. Mais il en existe plusieurs milliers de crypto-monnaies. À défaut parfois de pouvoir identifier tout de suite le ou les suspects parce qu'ils vont utiliser des techniques de protection de leur identité via le chiffrement, et bien en fait le plus simple, et on le voit de plus en plus, c'est de suivre l'argent. Donc nous avons des enquêteurs en police, en gendarmerie, qui sont spécialisés pour suivre et saisir les actifs numériques qui transitent sur les différentes blockchains, et en perquisition après on est capable, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, de saisir de manière immatérielle, mais juridiquement c'est une saisie, de saisir des actifs numériques qui seront après remis à la GRASC. Et force est de constater que dans la majorité maintenant de ce type de dossier, suivre l'argent permet très souvent d'identifier le ou les individus, en tout cas les organisations criminelles qui sont derrière ce type d'agissement.
Alors, juste Guillaume Daïef, on va vous laisser rebondir, je pense, sur la question de la loyauté, parce que c'est vrai que ça a été un débat dans cette affaire. Comment la 13e Chambre s'est-elle positionnée spécifiquement sur cette question que Mathieu Audibert a un peu esquissée ici? Effectivement, ce n'est pas un argument qui a été qui a convaincu. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'on a observé pour se positionner à la 13e?
Eh bien, Mathieu Audibert a parfaitement bien résumé les termes du débat et les termes de la jurisprudence. Et donc, il a dit que la preuve doit être loyale. Voilà, c'est ça le sujet. Autrement dit, l'idée, c'est quoi? C'est que l'État, c'est le procureur, ne peut pas être déloyal quand il enquête. Il ne peut pas se comporter comme un voyou. Voilà, en gros, c'est à peu près ça l'idée. Et c'est très bien. C'est très bien. Et on a bien raison de le rappeler. Et c'est la loi, c'est la jurisprudence, c'est la doctrine. Bon. Voilà. Mais en revanche, bon, l'État, il peut être quand même un peu habile. Hein, voilà. Quand même. Évidemment, se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, quand on enquête, et ça, que ce soit dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui ou que ce soit dans le trafic de stupéfiants ou dans n'importe quel type d'enquête criminelle, on sent qu'il y a un petit écart par rapport à la loyauté. Alors, la loi est venue encadrer cela en créant deux régimes. Celui qui a été utilisé dans le jugement qui nous occupe aujourd'hui et qui est donc l'enquête sous pseudonyme, et l'article 232- quelque chose du code de procédure pénale. Et puis, il y a un autre régime qui s'appelle l'infiltration, qui, lui, est dans les articles 706 et suivants du même code, et qui est un régime un peu plus fort. Voilà. Et les limites donc posées à tout cela, c'est que l'État, l'enquêteur, ne doit pas provoquer à l'infraction. Voilà. Voilà. Alors, exemple, si par exemple vous prenez contact avec un voyou qui s'est arrêté, qui s'est rangé, comme on dit, en lui disant ah tu pourrais pas recommencer, ça serait bien, ça, voilà, voilà, vous provoquez l'infraction. Le type avait arrêté et puis il recommence. Donc ça va pas du tout. Voilà.
Et en l'espèce.
Alors en l'espèce justement, alors il y a eu le débat, c'était tout à fait intéressant et compliqué. Parce que donc l'enquête sous pseudonyme, sa particularité par rapport à l'infiltration, c'est qu'il ne peut y avoir de contact avec le suspect que par mail et peut-être par téléphone. Enfin, ça c'est discuté, mais en tout cas c'était pas le sujet ici. Là c'était que par mail. Et donc en fait vous avez et les mails, ils sont tracés puisque on avait tous les textes. Donc on avait toute une série d'échanges dans lesquels chacun, c'est-à-dire le procureur d'un côté et la défense de l'autre, pouvait venir dire ah ben non, enfin la défense dit, voyez-vous, là j'étais pas d'accord, vous m'avez poussé, et puis le procureur dit non, mais c'est vous qui vouliez, etc. Donc comme tous les textes, ça peut être interprété dans les deux sens. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au début de l'infiltration, pas d'infiltration, de l'enquête sous pseudonyme, il y avait deux éléments qui autorisaient, ça, moi je peux le dire, c'est à peu près clair, cette enquête sous pseudonyme et le fait de s'adresser aux Français en se faisant passer pour une entreprise à attaquer, c'est que le Français était affiché comme négociateur par le groupe Everest. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, il avait pris contact téléphonique avec l'entreprise attaquée, l'entreprise attaquée, pour leur dire « Ah, j'ai vu que vous avez été attaqué, si vous voulez, je peux vous aider. » Voilà. Voilà. Donc, il n'y avait pas de souci. Il était en train de commettre l'infraction. Et donc là, il n'y avait aucune provocation à l'infraction. Voilà.
Donc on est dans la démarche, effectivement, sur cette ligne médiane.
Voilà. Mais alors là où ça devenait plus subtil, plus compliqué, c'est qu'ensuite, au premier contact, il a dit « Non, moi, j'ai rien à voir avec eux, etc. » Donc là, la défense a pu dire « Ah, vous voyez, en fait, là, il ne voulait pas. » Mais alors, il a fallu interpréter tout ça. Et c'était un débat tout à fait intéressant. Voilà. C'était un débat qui n'était pas gagné pour le procureur, je précise ici. On l'a pesé le pour et le contre. Et puis, bon, on a considéré que pour diverses raisons qui sont résumées et qui sont développées dans le jugement, qu'il n'y avait pas eu provocation à l'infraction.
Alors cette affaire pose quand même plus largement la question de l'immixtion de personnes privées dans cette enquête sous pseudonyme dont on parle. Ce hacker français, alors on le nommera peut-être qu'une fois pour les auditeurs, qui est Florent Curtet, est reconnu pour s'autoproclamer hacker éthique, ce qu'on appelle aussi les White Hats. Il est connu pour ses prises de parole médiatiques sur le sujet. Et il invoque en défense, il invoquait en l'espèce, ce motif éthique pour justifier sa démarche. Qu'est-ce que ça signifie ici, se revendiquer être un hacker éthique? Et finalement, pourquoi ça ne vous a pas convaincu, cette question de l'éthique?
Alors, en fait, ça nous a... Déjà, il y avait un débat sur est-ce vrai ou est-ce pas vrai, enfin, est-ce vrai ou est-ce faux que ces motivations sont éthiques. Voilà. Alors, le parquet considérait que tout ça, c'était du pipeau, que c'était tout à fait faux, que c'était d'un écran de fumée. Et la défense disait, mais si, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y avait un débat là-dessus. Bon. Au final, nous, on a considéré qu'il y avait ces motivations étaient plutôt pouvaient être.
Mais éthique dans quel sens?
Éthique, c'est-à-dire que lui, ce qu'il faisait valoir, c'était un concept que je résumerais en utilisant une des formules de son conseil, que c'était une. Il avait voulu faire une infiltration auprès du groupe Everest pour le démanteler et une infiltration patriotique, rien que ça. Voilà. Et il avait plusieurs éléments qui tendaient à montrer que c'était pas faux, voilà, ou même que c'était vrai. Maintenant, même à supposer même, et le tribunal a retenu cette hypothèse, que ses motivations fussent nobles, louables, patriotiques, etc., le tribunal est venu rappeler que un mobile noble, ça suffit pas à supprimer une infraction. Mm-hmm. Voilà. Et on s'est même autorisé à comparer à Robin des Bois, figurez-vous. Oui. Hein, Robin des Bois, motif noble, répartition des richesses, redistribution aux pauvres, etc. Oui, sauf que ça n'empêche qu'il volait. Voilà. Mmh. C'est pas parce que ses motifs étaient nobles qu'il volait pas. Voilà. Alors ensuite, cette question du caractère éthique ou pas, on en a tenu compte pour la fixation de la peine. Mmh. Voilà. Mais pas pour la déclaration de culpabilité.
D'accord. Alors, cette image du Robin des Bois, elle peut permettre une transition. Mathieu Dibert, vous évoquiez tout à l'heure le lien avec la pédocriminalité. C'est aussi un domaine dans lequel l'action citoyenne conduit ce qu'on appelle les chevaliers blancs à vouloir lutter contre ces agissements. Et alors là, on se situe comment? Est-ce que c'est légal pour une personne privée de s'improviser comme ça, enquêteur sur le dark web, de participer à la recherche des données volées pour essayer d'intercepter dans cet autre cas de figure des pédocriminels présumés pour en avertir les forces de l'ordre? Parce que c'est un autre sujet, finalement, mais très présent à l'heure actuelle.
Je vous remercie pour cette question qui, en fait, est très complexe. Il faudrait plusieurs heures pour en parler.
Vous avez
3
minutes.
On y consacre même aussi parfois des parties de thèse. Non, plus sérieusement, il y a des organisations de personnes privées qui ont des motifs nobles de lutter contre les escrocs sur Internet. On les appelle les crocs escrocs. On a des gens qui ont des motifs nobles, qui veulent lutter contre la pédocriminalité. Donc c'est tout ce qui concerne l'exploitation de mineurs ou la diffusion et le commerce de contenu à caractère pédopornographique sur Internet. Mais il faut bien parler de pédocriminalité parce que par nature c'est illégal. Qui donc ont des motifs nobles. Ils veulent aider les policiers, les gendarmes, le procureur de la République pour interpeller des individus qu'ils jugent, la plupart du temps à juste titre, malfaisants. C'est tout le problème de la justice privée. Le code de procédure pénale, et comme je le disais tout à l'heure, la loi, les pratiques des enquêteurs sont particulièrement encadrées, parce que nous sommes l'État. Nous agissons conformément à la loi, puisque nous sommes dans un état de droit. Et en outre, même si la Cour de cassation l'a rappelé dans une affaire célèbre à propos d'une vidéo de sextape et de footballeur en 2019, on peut être rusé, on peut utiliser des stratagèmes, légaux en l'occurrence, mais on ne peut pas provoquer la commission d'une infraction. Toutes ces restrictions et ces conditions ne s'appliquent pas à des personnes privées. Il est constant dans la jurisprudence de la Cour de cassation que le principe de loyauté de la preuve ne concerne que les autorités publiques. Cela veut donc dire que, théoriquement, une personne privée peut se faire passer pour qui elle n'est pas sans problème et elle peut, entre guillemets, dans certaines situations, provoquer la commission d'une infraction. Le problème, c'est que si on dit cela, si on autorise par principe cela, ça peut donner lieu à toute une série d'abus, toute une certaine forme de dérive. L'actualité nous a montré très récemment que des gens, comme au Royaume-Uni notamment, chassaient des pédocriminels ou des pédophiles sur Internet, leur donnaient rendez-vous et ensuite les tabassaient. On a eu des dossiers à propos d'un site Internet qui fait l'objet d'enquêtes, c'est dans la presse, en coco.gg en l'occurrence, où des gens, après, pensaient discuter légalement ou pas d'ailleurs avec d'autres personnes, il y avait un rendez-vous et la personne se retrouvait tabassée et dépouillée. Il y a même eu des gens qui sont décédés et des informations judiciaires qui ont été ouvertes pour assassinat. En matière de lutte contre la pédocriminalité, vous avez effectivement des teams, des organisations privées qui chassent les pédocriminels sur Internet et qui, une fois la personne identifiée, donc vous avez des gens qui filment au moment du rendez-vous, le suspect pensait retrouver un mineur et qui filment, et après ils vont voir le procureur territorialement compétent pour lui dire « tenez, voilà les preuves ». En soi, on pourrait considérer que cette preuve est parfaitement loyale, parce qu'encore une fois, le principe de loyauté ne s'applique pas aux personnes privées. C'est du cas par cas. Les procureurs de la République jugent en fonction des circonstances et des détails des enquêtes, dont nous n'avons pas connaissance, ou si nous avions des détails, on ne pourrait pas les communiquer, puisque c'est protégé par le secret de l'enquête et de l'instruction, jugent en fonction des circonstances. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que, en tout état de cause, il n'est pas possible, en revanche, pour un enquêteur officiel, un policier, un gendarme, il n'est pas possible pour un procureur de la République ou pour un juge d'instruction d'aller voir une personne privée et de lui demander de procéder à une enquête, entre guillemets, à la place des enquêteurs policiers ou gendarmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été démontré, il a été expliqué par la Cour de cassation que on ne peut pas contourner le principe de loyauté applicable aux autorités publiques en téléguidant une personne privée. Ça a été très largement sanctionné par la jurisprudence. Et dans ces conditions, effectivement, on est dans une forme d'entre-deux, où c'est au cas par cas, mais en tout état de cause, on ne peut pas inciter les gens à se livrer à cette forme d'enquête privée, de justice privée, étant précisé que le cas particulier de la pédocriminalité, quand vous faites des enquêtes sur Internet en matière de pédocriminalité, vous pouvez être amené à consulter, voire à télécharger des contenus pédocriminels. La loi sanctionne la consultation et la détention de ces contenus, et comme l'a rappelé M. Daïef, c'est pas parce que vous avez une intention louable que pour autant vous avez le droit de détenir ou de consulter des contenus pédocriminels sur votre ordinateur. Donc,
on a une limite.
Il y a un certain nombre de limites.
Même pour le privé.
Effectivement, il me semble quand même très dangereux, aussi bien d'un point de vue juridique que pour la sécurité des personnes qui feraient ces enquêtes privées, d'encourager cette forme de pratique, parce qu'on peut très bien imaginer la situation où un suspect, au moment de la rencontre, s'apercevant qu'il a été piégé par un individu, un chasseur de pédocriminels ou un chasseur d'escrocs, soit porteur d'une arme et puis essaye de se venger en tuant ou en ouvrant le feu.
À de la vengeance privée.
Exactement. Enfin, je pense qu'il faut se garder d'encourager toute forme de justice et d'enquête privée, puisque l'expérience nous a montré en France que parfois ça peut donner lieu à un certain nombre de débordements.
Alors, pour terminer sur la question des axes finalement de défense invoqués dans l'affaire dont on parle par Florent Curtet, il assurait, Guillaume Daïef, il assurait qu'il tenait au courant l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qu'il tenait au courant cette agence des échanges qu'il avait avec le fameux groupe Everest. Et cet argument-là, il s'en servait pour espérer obtenir une immunité, en fait, pour ses agissements. Alors, en rappelant très brièvement, peut-être mieux que je ne l'ai fait là, le rôle de l'ANSSI dans la lutte contre les atteintes au stade, surtout, pourquoi, en fait, ce fondement qu'il invoquait, qu'il essayait d'expliquer juridiquement, n'a pas été convaincant? Qu'est-ce qui, en droit, ici, était problématique?
Alors, c'était un argument fort de sa part, à l'appui de sa démonstration qu'il était animé de motifs, pour reprendre ses termes, patriotiques. Voilà, parce que tout le problème, lorsque des citoyens chassent des escrocs, des pédocriminels, etc., c'est qu'ils s'exposent eux-mêmes en chassant à commettre une infraction. En fait, c'est ça la difficulté. Parce que pour s'approcher d'un voyou, et pour que le voyou accepte que vous approchiez de lui, il faut montrer que vous faites la même chose que lui. Hein. Oui. Donc il faut lui donner des gages. Et donc ça vous amène, tôt ou tard, à commettre une infraction. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre hacker, notre hacker français. Là. C'est exactement ce qui s'est passé. En étant accepté par Everest, en réalité, il aidait aussi Everest pour qu'Everest accepte de lui donner des informations.
Oui, c'est la question de la complicité que vous écrivez tout à l'heure. Complicité.
Alors, donc, il disait, moi, je tenais au courant, l'ANSSI, qui est donc, je ne sais pas comment le définir, enfin, c'est une agence...
Mathieu, Zibert.
En fait, l'ANSSI, c'est une agence donc, de l'État qui est rattachée à un secrétaire général qui dépend du Premier ministre, donc qui est le SGDSN, le secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale. Et en fait, cette agence de l'État est spécialisée dans la cybersécurité des systèmes d'information, principalement pour tout ce qui va concerner les intérêts de l'État et les intérêts fondamentaux de la nation, donc, mais elle est là aussi pour diffuser un certain nombre d'informations en matière de cybersécurité, et au sein de l'ANSSI, on a notamment ce qu'on appelle le CERT, le Centre de réponse à incidents, qui est en fait un centre qui est ouvert 24 heures sur 24, et qui reçoit des informations quand il y a une personne qui a été victime d'une cyberattaque, donc c'est souvent une grosse entreprise ou une administration de l'État, et ce CERT donc peut recevoir des signalements de la part de tiers ou de la part d'autorités publiques, puisque au sein de l'institution dans laquelle je travaille, il y a un service qui fait de ce qu'on appelle du renseignement d'intérêt cyber. Et ensuite, l'ANSSI va prévenir la victime, et on l'a vu par le passé, dans l'affaire par exemple de TV5 Monde, etc. L'ANSSI va apporter une assistance aux victimes d'infractions, notamment une assistance technique pour essayer de remédier à la situation.
Et donc, il disait, moi j'ai averti le CERT de l'ANSSI, voilà. Et il disait, donc, je suis exempt de peine, parce que moi, j'ai averti l'autorité, j'ai averti l'ANSSI. Donc, pas de peine pour moi. Voilà. Sauf que, et il invoquait un article de la loi, une loi de 2016 pour une république numérique, la loi 2016-1321, voilà, et qui avait codifié un article au L, pour être précis, au L2321-4 du Code de la Défense. Sauf que, justement, dans les débats au Parlement à l'époque, la première version de cet article, c'était de dire que
un informateur
de l'ANSSI était exempt de peine, même si pour obtenir l'info qu'il donnait à l'ANSSI, il avait commis une infraction.
Oui.
Si vous voulez. Et c'est pas le système qui a été retenu par le législateur, parce que au cours
du
débat, la rédaction finale était très différente, et elle disait seulement que l'informateur de l'ANSSI, quand l'ANSSI se rend compte que pour obtenir cette information, l'informateur a commis des infractions, elle est juste dispensée de faire ce que toute autorité publique est tenue de faire de manière générale, à savoir de dénoncer au procureur les personnes qui commettent des infractions. Voilà, ça s'appelle l'article 40 du Code de procédure pénale. Et donc, le législateur est venu dire, lorsque l'ANSSI se rend compte de ça, elle n'est pas tenue de transmettre au procureur.
Mais ça n'a pas de conséquences sur sur l'aspect des peines, finalement, encourues pour l'aspect des...
Alors, ça n'a pas d'incidence sur la déclaration de culpabilité, le fait d'avoir arrêté l'ANSSI. En revanche... Nous, on a considéré que ça avait un impact sur la peine, c'est-à-dire, autrement dit, en gros, on n'a pas mis de peine ferme, là où on aurait peut-être mis une peine ferme. Hein, voilà.
Alors, en ouverture, une question que vous avez évoquée tout à l'heure, si on se recentre pour ces dernières questions sur les victimes, de plus en plus nombreuses, vous l'avez bien mise en évidence, quel serait finalement le conseil final? On la paye ou on ne la paye pas, cette rançon demandée quand on est victime d'une extorsion?
Le conseil, enfin il y a plusieurs conseils en réalité. Hein, déjà, pour éviter d'être victime d'une infraction en matière numérique, en matière de cybercriminalité, il faut se préparer. Il faut anticiper, et la loi, l'Union européenne, un certain nombre de réglementations qui prévoient que, à partir d'un certain seuil, les organisations publiques comme privées doivent mettre en place un certain nombre de mesures et de normes en matière de cybersécurité des systèmes d'information pour limiter les risques. Peu comme lorsqu'on sécurise son domicile ou qu'on sécurise un moyen de transport ou les moyens de paiement. Ceci étant, adopter des mesures de prévention pour limiter les risques, ça ne supprime pas le risque. Encore une fois, le risque est systémique et n'est plus conjoncturel. Donc, si jamais on est victime d'une attaque par rançon logicielle, comme ça a été le cas ici en l'espèce, et qu'on a une demande de rançon, donc on rappelle que c'est une extorsion, pour le langage commun c'est quand même du racket, c'est un terme usuel qui est utilisé, est-ce qu'il faut payer la rançon? Par principe, non. on ne paye jamais la rançon pour une raison très simple. C'est que, quand vous payez la rançon, vous participez finalement à l'économie du cybercrime. Vous donnez les moyens aux cybercriminels de continuer à livrer à ce genre d'agissement. Outre le fait que ça constitue un préjudice qui est supplémentaire, vous n'avez bien évidemment aucune garantie de récupérer tout ou partie des données qui ont été chiffrées par le rançon logiciel. Qui vous dit que la personne, enfin le groupe criminel, va vous redonner vos données, vous n'en avez aucune, ou va vous donner la clé. De plus, si vous payez la rançon, finalement, les groupes criminels communiquent entre eux, donc ils vont savoir que telle ou telle victime est encline à payer cette rançon, donc finalement, vous augmentez votre risque cyber. Et en outre, il a été démontré dans plusieurs dossiers que payer la rançon, pouvait parfois constituer une infraction supplémentaire, puisque quand l'extorsion concerne des données à caractère personnel, le code pénal impose le signalement de cette fuite de données, ce qu'on appelle parfois un leak, notamment à la CNIL, parce qu'il y a la protection des personnes qui sont concernées par ces données, et bien évidemment, le paiement de la rançon s'accompagne d'une obligation de confidentialité qui, du coup, est en totale inadéquation avec ces dispositions du code pénal. La loi n'interdit pas, par principe, ceci étant, le paiement d'une rançon. Elle l'encadre notamment pour les organisations qui sont protégées par un contrat d'assurance, puisque ça a fait l'objet de débats lors de la dernière loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, ou pour les entreprises, les organisations qui sont protégées par un contrat d'assurance qui prend en charge ce risque cyber, et donc dans certaines situations où on peut avoir une assurance qui paierait la rançon, ce paiement de la rançon, en tout cas la mise en œuvre d'une garantie assurantielle, est limité par un dépôt de plainte dans un délai de 72 heures après la connaissance de cette cyberattaque. Donc c'est une modification qui est intervenue dans le code des assurances. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte dans les travaux parlementaires et en échangeant avec l'ANSSI que en fait, vous aviez des gens qui payaient, des organisations qui payaient parce que la société de remédiation ou l'assurance donnait l'argent, qui ne prévenaient pas les victimes au titre de la loi informatique et liberté et des dispositions du code pénal. Et vous aviez aussi toute une économie du cybercrime qui se mettait en place. Et c'est la raison pour laquelle donc la loi est venue encadrer ce risque assurantiel si particulier. Mais je le redis encore une fois, par principe, il ne faut pas payer la rançon, il ne faut pas encourager l'extorsion, il ne faut pas encourager le racket dans le cyberespace.
Et oui, vous le rappelez à juste titre, on a souvent des données personnelles sont finalement souvent en jeu dans ces affaires. Vous évoquez ici la CNIL qui est souvent présente dans nos émissions. On pourrait donc inviter sur une troisième émission peut-être cybersécurité d'autres acteurs dans finalement ce qui est aussi un écosystème et de cybersécurité parce qu'il faut être à armes égales, du moins on essaie de l'être. Merci à vous deux pour ces échanges passionnants.
Merci bien.
Symboliquement sur le générique du film Fantomas que l'on termine ces échanges. Mathieu Audibert, Guillaume Daïef, je vais vous proposer de tenter de faire le lien en réagissant à une lecture issue de La République de Platon.
Platon, La République, livre 2. Voici, dit-on, ce que fit Gigès, l'ancêtre de celui qui est aujourd'hui roi de Lydie. Il était berger au service du roi qui régnait alors. Un jour, après une violente tempête et un tremblement de terre, la terre s'ouvrit et fit apparaître une fissure à l'endroit où il faisait paître ses troupeaux. Surpris, il y descendit et vit, entre autres merveilles dont la légende fait état, un cheval de bronze, creux, muni de petites ouvertures. En s'approchant, il y aperçut un mort d'apparence gigantesque, qui portait au doigt un anneau d'or. Il lui prit cet anneau et ressortit. Lors d'une réunion habituelle des bergers pour rendre compte au roi de leur troupeau, il mit cet anneau à son doigt. Pendant la réunion, il remarqua que, en tournant le chaton de l'anneau vers l'intérieur de sa main, il devenait invisible aux autres, tandis qu'eux parlaient de lui comme s'il était absent. En tournant de nouveau le chaton vers l'extérieur, il réapparaissait. Après avoir fait cette expérience, il s'arrangea pour devenir l'un des envoyés auprès du roi. Une fois là-bas, il séduisit la reine, conspira avec elle, tua le roi et s'empara du pouvoir. Si donc on possédait deux anneaux semblables, l'un donné à un homme juste et l'autre à un homme injuste, on ne trouverait personne, croit-on, dont l'âme fût d'une trempe si ferme qu'il resta fidèle à la justice et s'abstint de toucher au bien d'autrui, alors qu'il pourrait sans risque prendre dans le marché ce qu'il voudrait, entrer dans les maisons, séduire qui il voudrait, tuer ou délier de leurs chaînes ceux qui voudraient, et agir, en un mot, comme un dieu parmi les hommes. En agissant ainsi, ces deux hommes montreraient que tous les hommes agissent pour leur propre intérêt et non par justice.
Alors, l'un de vous deux, Guillaume Daïef peut-être, je ne sais pas, est-ce que cette figure antique du hacker vous inspire ?
Écoutez, très bien d'abord de citer Platon, c'est bien, cybercriminalité et Platon, ça c'est parfait, ça me plaît bien. C'est un texte quand même qui est tout à fait pessimiste hein, sur la nature humaine, qui est parce que voilà, qui considère que aucun homme ne serait capable de résister à la tentation s'il pouvait devenir invisible. Voilà. Alors les cyberhackers, peut-être qu'ils sont, ils se croient invisibles et ils n'y résistent pas. Mais moi, je partage pas cette voilà conception de l'homme. Je suis moins pessimiste. Je pense qu'il y a du bon en chacun d'entre nous. Et il y a une petite voix aussi hein, qui vient à dire à chacun d'entre nous s'il pouvait devenir invisible que c'est pas moral, que c'est contraire à l'éthique. Voilà. Mais ensuite chacun a son caractère.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Guillaume Daïef, président de la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris, et Mathieu Audibert, officier de gendarmerie au sein du ComCybermi et également docteur en droit. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léobardo Arango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.